Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hola les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la 14e fois ce mois-ci. Un tonnerre d'applaudissements à nous tous, à vous pour être encore là et m'écouter, et à moi pour tenir le coup, quoi. Je suis fière, il nous reste plus que 10 jours et ensuite c'est Noël. Déjà, what? C'est Noël, mon cerveau n'arrive pas à assimiler l'information, je ne comprends pas. Et ensuite, c'est une nouvelle année, enfin c'est le nouvel an. Laissez-moi process déjà cette année-là, je suis pas prête moi pour une nouvelle année. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je ne me voyais pas ne pas aborder pendant ces podcasts. C'était obligé, parce que c'est quelque chose dont... Voilà, c'est un combat que j'ai mené pendant de nombreuses années, et aujourd'hui on va parler de nos potes qui s'invitent au repas de Noël sans prévenir, sans rien demander en fait. Les troubles alimentaires ou les troubles du comportement alimentaire en entier, c'est-à-dire TCA, pour ceux qui n'auraient pas compris le titre, maintenant vous savez ce que ça veut dire. Vraiment les invités qui sont en trop à la table. Et c'est des invités qui se sont incrustés chez moi pendant beaucoup trop d'années. Voilà, j'ai vécu beaucoup de Noël avec eux. Et c'était pas les Noëls les plus joyeux, hein, on va pas se mentir. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous partager mon expérience. Déjà, je vais revenir rapidement sur mon histoire et sur les troubles alimentaires que personnellement j'ai vécu, parce qu'il y a peut-être des gens qui tombent sur ce podcast et qui ne me connaissent pas. Donc voilà, mais le but, c'est pas que je rentre en détail et que je vous raconte toute mon histoire. J'ai déjà fait un podcast là-dessus et peut-être que j'en referai un, parce que je crois qu'il est un peu... Il commence à dater un peu ce podcast, donc voilà. Et ensuite, je répondrai à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram en essayant de vous donner les meilleures réponses. Encore une fois, je ne suis pas médecin, voilà, je suis pas professionnelle, donc c'est vraiment, je partage mon expérience. Et voilà quoi, enfin, ce que moi j'ai vécu. Quand même, trigger warning, avant qu'on commence tout ça, vous l'aurez compris, on va parler de troubles alimentaires, on va parler de privation, de compensation... De tout le package quoi, des troubles alimentaires. Donc si c'est un sujet sur lequel vous êtes sensible et que vous préférez ne pas écouter ce podcast, je comprends totalement et vous êtes libre de partir maintenant. Mais en tout cas, je vais essayer d'aborder le sujet le plus positivement possible et de vous partager mon expérience de personne qui a réussi aujourd'hui à sortir de ses troubles. Et je pensais vraiment pas que c'était possible. Je pensais que c'était quelque chose qui allait me suivre toute ma vie. Donc voilà, je suis peut-être la preuve que non. Et qu'on peut vraiment s'en sortir. Et je me dis que si je peux en aider certains d'entre vous, j'ai aucune prétention, mais si c'est possible, alors tant mieux. Parlons un petit peu de moi rapidement. Bon, déjà, il faut savoir qu'on est tous différents. Et donc, du coup, les causes de nos troubles alimentaires ne sont pas toutes les mêmes. On a tous des déclencheurs différents. Et donc, moi, ça a commencé en 2015 ou en 2016. Je ne sais plus exactement, j'avais 17 ans. Et c'était juste avant l'été. Et en fait, tout simplement... Je voulais faire un rééquilibrage alimentaire. Je voulais prendre en main mon alimentation. J'avais jamais été une grande sportive, donc je voulais commencer le sport. C'était un peu la grande traîne des fit girls. C'était le début des fit girls et de tout le mode de vie un peu healthy qu'on voyait partout sur les réseaux. Et je suis simplement tombée dedans, quoi. Donc au départ, c'était rien de malsain. C'était vraiment juste moi qui essayais de manger mieux, de faire du bien à mon corps. Et c'est vite... je suis vite tombée dans l'excès en fait et dans les comportements qui étaient très malsains, donc je mangeais de moins en moins ou en tout cas je mangeais trop peu, je calculais toutes mes calories, je faisais beaucoup beaucoup trop de sport et ça devenait obsessionnel, c'est-à-dire que ce mode de vie qui à la base était censé être un mode de vie sain et sans prise de tête et juste me faire du bien, c'était devenu le centre de ma vie. Je pensais à rien d'autre que à mes repas et à mes séances de sport et à ce que je voyais dans le miroir. Voilà, je me pesais tous les matins. C'était vraiment devenu ma vie entière, quoi. Et du coup, j'ai commencé à m'isoler parce que je me sentais plus à ma place, en fait, dans mon groupe d'amis. Parce qu'on partageait plus la même... on n'avait plus les mêmes priorités, disons. Et j'avais l'impression que de plus me retrouver, en fait. Et je trouvais plus ma place nulle part. Voilà, nulle part. Je me sentais bien avec personne d'autre que juste moi-même, seule dans ma chambre ou à la salle de sport parce que c'était là que je pouvais me défouler et compenser et brûler les calories que j'avais mangées pendant la journée. C'était un petit peu ça, quoi. Je commence déjà à trop parler de moi. J'ai tellement de choses à dire sur ce sujet. Il faut vraiment que je fasse une série entière de podcasts sur les troubles alimentaires. Mais voilà, j'ai souffert d'anorexie, donc j'ai été diagnostiquée par des médecins. Et ensuite, j'ai entamé une guérison. Pendant la guérison, j'ai eu beaucoup de crises d'hyperphagie, de boulimie. C'est tellement complexe, les troubles alimentaires, et il y a tellement de choses qui rentrent en compte que je peux pas dire que j'ai eu ça ou ça. Je pense que j'ai eu juste des troubles alimentaires. La guérison, pour moi, elle a pris bien, pratiquement 4 ans, voire 5 ans, en fait, 17, 18. Attendez, je compte sur mes doigts. Ouais, 6 ans, pratiquement. Ouais, 5-6 ans. Donc ça a été une guérison très longue, mais ce qui compte aujourd'hui, c'est que je sois là et que je puisse vous partager mon expérience avec du recul. Et c'est quelque chose dont je suis très fière. Donc, je vais prendre vos petites questions et on va commencer directement. N'hésitez pas, hein, si vous voulez vraiment que je refasse un podcast où j'explique toute mon histoire et comment ça s'est passé, je le ferai avec plaisir, on pourra même le découper en plusieurs épisodes. Si c'est un truc qui vous plairait, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Instagram. Bon, du coup, première question que j'ai reçue, c'est: est-ce qu'on peut dire qu'on a des TCA sans jamais s'être fait diagnostiquer? Selon moi, oui, totalement. T'as pas besoin de te faire diagnostiquer pour savoir au fond de toi que t'as des TCA. Aujourd'hui, il y a des symptômes qui ne trompent pas. Il y a même certains médecins qui vont être dédramatisant et qui vont te dire, enfin moi en tout cas ça a été le cas avant que je me fasse diagnostiquer par un centre spécialisé pour les troubles alimentaires, j'étais voir des diététiciens avant et j'ai eu des expériences horribles, mais vraiment des expériences horribles, comme le premier rendez-vous que j'ai eu. Donc je vais chez le diététicien, ma maman s'inquiétait beaucoup pour moi parce que j'avais perdu beaucoup de poids, donc j'arrive à ce rendez-vous chez le docteur et la première chose que ce monsieur fait, donc ce diététicien fait, c'est me mettre sur une balance. Ça commence déjà pas très bien parce que évidemment moi j'avais une relation avec la balance qui était très malsaine et que je me pesais tous les matins. Donc ce monsieur voit mon poids et la première chose qu'il dit, je m'en rappelle parce que vraiment c'est... Il dit « Oh ça va. » Sous-entendu, t'es pas si maigre que ça. T'as de la marge en gros. C'est pas si grave que ça. Il suffit juste que tu prennes 1 ou 2 kilos, mais... La fin du rendez-vous, c'était juste qu'il disait à ma maman que j'avais pas de trouble alimentaire selon lui et que j'étais juste... J'avais juste un mode de vie sain, quoi, et qu'il fallait simplement que je mange un peu plus, mais qu'il n'y avait rien d'alarmant et que j'avais pas de trouble alimentaire. Donc c'est pour vous dire que tous les médecins ne sont pas forcément qualifiés et qui ne savent pas forcément ce qu'ils font. Il y a des gens qui sont vraiment spécialisés dans les troubles alimentaires et qui sauront reconnaître dès le début, les premiers signes, quoi. Mais il y a des gens qui ne sont pas du tout qualifiés. Et je pense que les troubles alimentaires, c'est un des rares cas où tu peux te diagnostiquer toi-même. Je sais que c'est délicat pour moi de dire ça, mais je pense réellement que si par exemple tu te retrouves dans beaucoup de symptômes que je vais décrire pendant ce podcast, ça peut peut-être vouloir dire que tu as des troubles alimentaires. Et il y a beaucoup 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 de gens aujourd'hui qui souffrent de troubles alimentaires mais qui ne le savent pas. Avec l'ère des réseaux et de tous les régimes qu'on voit sur internet et des trucs de healthy et de sport, etc. Des fois en fait on a l'impression que c'est normal et qu'on essaie de bien faire les choses, mais en fait il y a des comportements qui ne trompent pas. Il y a plein de gens qui ont des troubles alimentaires et qui ne le savent pas. Des gens qui pensent que de se priver ou de calculer ses calories au gramme près, ou de culpabiliser après un repas, c'est quelque chose de normal, alors qu'en fait, c'est pas normal. Si c'est quelque chose qui te bouffe la vie au quotidien, et qu'il n'y a pas un jour qui passe sans que tu penses au repas que tu vas manger, qu'il n'y a pas un jour qui passe sans que tu culpabilises, qu'il n'y a pas un jour qui passe sans que tu te regardes dans le miroir, que tu te scrutes sur tous les angles, que tu te pèses, etc. C'est pas des comportements qui sont sains et c'est des choses qui te font du mal en fait à la longue. Donc pour moi, oui, si vous devez aller voir un médecin, le mieux c'est vraiment d'aller voir dans un centre spécialisé et des médecins qui ont vraiment étudié le sujet des troubles alimentaires. Comment apprécier Noël quand tu souffres de troubles alimentaires? Alors, c'est une question qui me touche droit au cœur parce que j'ai toujours adoré la période de Noël. Et donc évidemment, quand j'ai commencé à avoir des troubles alimentaires, cette période, elle est devenue complètement différente. Je ne l'ai plus du tout vécue comme une période agréable parce que j'avais peur. J'appréhendais le fait de devoir me retrouver autour d'une table, le fait que de manger des repas que d'autres personnes m'avaient cuisinés, qu'on me serve mon assiette, que je ne contrôle pas mes portions, que j'ai des envies aussi, évidemment, de manger plus que d'habitude. Et toute la culpabilité qui va avec derrière. Et j'ai des souvenirs de Noël qui ont été assez tristes et assez fous, en fait, quand j'y pense. Mais pour vous raconter rapidement, j'ai eu un Noël où j'ai décidé de prendre en main le repas et de cuisiner pour tout le monde. Donc c'était un petit Noël, c'était pas un Noël où on avait toute la famille, donc c'était juste mes parents et mon petit frère et moi. Et en fait, mon attention n'était pas très... c'était pas je voulais faire plaisir et faire un repas de Noël, c'était que je voulais vraiment pouvoir avoir le contrôle sur toutes mes portions. C'est-à-dire que j'avais calculé précisément combien de calories il y avait dans chaque portion de ce que j'avais préparé. J'avais calculé exactement le gramme de pâté et le gramme de choses que j'avais mis sur les toasts. Donc je savais qu'en fonction de si je mangeais 3 toasts et si je mangeais ça, j'allais manger tant de calories. Tout était calculé de A à Z. C'était vraiment... j'arrive pas à croire que ça s'est vraiment passé. C'est assez fou. Et le lendemain, j'avais invité toute la famille à faire une course à pied. Voilà, général, donc on était tous partis le lendemain et j'en garde un bon souvenir parce que au final on a tous passé un moment en famille, mais ce qui est vraiment triste en fait c'est que j'ai vraiment tout calculé pour pouvoir me dépenser un maximum le lendemain, donc on avait couru je crois 10 km, un truc comme ça, et j'avais calculé tout mon repas de Noël et je me souviens que j'étais super fière de moi à ce moment-là parce que j'avais su garder le contrôle et j'avais... Enfin voilà quoi, parce que c'est un peu ça les troubles alimentaires, c'est que tu veux garder le contrôle à tout prix et tant que tu gardes le contrôle, tout va bien. Sauf que j'ai vite réalisé que ça allait pas se passer comme ça tous les Noëls et que c'était pas ça un vrai Noël. Désolée. C'est pas ça un vrai Noël. Un vrai Noël, c'est un Noël où tu peux genre lâcher prise, où tu peux profiter réellement, sans calculer, sans avoir le plaisir de simplement partager un moment en famille, sans analyser toutes les choses que tu mets dans ton corps, en te disant que c'est mal, en te disant que tu vas te réveiller avec 3 kilos de plus, en te disant que t'es incapable, et enfin toutes les pensées négatives en fait qui tournent dans ta tête. Et comment apprécier Noël quand on a des troubles alimentaires? Je pense que... c'est compliqué parce que tu peux pas te débarrasser de ces pensées du jour au lendemain. Ça serait mentir que de vous dire que tu peux simplement te déconnecter et simplement vivre Noël normalement. Parce que c'est pas ça. C'est pas ça. Mais ce que tu peux vraiment faire, c'est te déculpabiliser un maximum. Moi, c'est vraiment ça qui m'a... Avec le temps, en fait, au plus les Noëls passaient, au plus j'essayais de me faire un petit coaching à moi-même avant et de me dire que c'est pas un repas qui va avoir un impact sur ton corps réellement. Et c'est ni 2 ou 3 repas de famille ou peu importe combien de repas tu vas avoir pendant cette période des fêtes, ces repas-là n'auront pas d'impact sur ton corps. Ce qui va vraiment avoir un impact derrière par contre, c'est si tu compenses et que tu rentres dans ce cercle vicieux de « je me prive ensuite et je vais faire du sport et je mange pas et ensuite du coup qu'est-ce que je fais ? Je prive mon corps donc je vais avoir envie de manger encore plus » et tu re-rentres dans ce cercle de troubles alimentaires quoi. Donc de juste te détendre et te dire « ok ». Ce soir, je vais essayer de laisser tout ça de côté et de réellement profiter en famille et de simplement me laisser ces petites voix derrière. Et je sais que c'est compliqué, mais de plus te concentrer sur le moment que tu vis et sur le partage. Même si c'est un petit Noël, même si c'est juste toi et ton partenaire, même si c'est juste toi avec des potes, peu importe, même si t'es seule à Noël, de juste te dire de quoi j'ai envie de me rappeler dans 10 ans quand je repenserai au Noël 2022. Le nombre de calories ou de petits fours que j'ai mangé ou le moment en fait que j'ai passé ce soir-là. Qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que j'ai regardé un film ? Est-ce qu'on a joué à un jeu de société ? Est-ce qu'on s'est raconté des anecdotes ? Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là qui a fait que c'était un soir agréable ? Voilà. Et la nourriture rentre en compte aussi. Te dire de juste profiter parce que tu le mérites et parce que la nourriture, c'est en plus d'être réconfortant, c'est aussi ton carburant. Voilà. Certes, nous, on est dans une société où on fête beaucoup de choses avec la nourriture. On célèbre beaucoup avec la nourriture. On va célébrer une remise de diplôme, on va faire un repas de famille, on célèbre Noël. Il y a tout un tas d'événements pendant l'année où on va célébrer avec la nourriture. Mais c'est bien plus que ça. Enfin, en tout cas, pour moi, Noël, c'est pas juste le fait de manger plus que d'habitude, même si pendant longtemps ça a été le cas et ça a été une peur en fait que j'avais développée. C'est bien plus que ça, c'est juste le fait de... C'est Noël quoi, c'est Noël et c'est tellement triste de te gâcher ce moment en étant dans ce mindset de peur et d'inquiétude. T'as pas besoin de t'inquiéter, t'as pas besoin d'avoir peur. Et j'espère que, voilà, je sais que ce que je dis, ça va pas te changer la vie et que ça va pas forcément d'un coup te libérer de toutes ces pensées négatives, mais juste profite et ne te gâche pas ton Noël avec ces pensées parasites et non, un repas, 2 repas, 3 repas ne va pas changer quoi que ce soit, vraiment. Et surtout, ne te pèse pas après ton repas de Noël, ne te pèse pas 2 jours après, ne te pèse pas du tout, en fait. Hein. La balance ne sert absolument à rien, donc si tu peux éviter, évite. À quel moment précis tu te dis « je suis OK avec le fait de manger » ? Ça, c'est une question qui me touche en plein cœur parce que il n'y a pas de moment où c'est OK de manger. C'est OK de manger tout le temps, en fait. On est humain, c'est quelque chose, enfin c'est naturel, c'est primitif, c'est juste... Il n'y a rien de malsain et de mal à avoir envie de se nourrir. À avoir envie de se nourrir par simple plaisir, par simple gourmandise, par réelle faim. Peu importe, si tu as envie de manger, tu as le droit de manger. Et c'est le moment où j'ai réellement compris ça et que j'ai réussi à lâcher prise sur ça et que j'ai arrêté de voir tous les aliments comme des mesures de calories. Et j'avais un peu du mal à faire la différence entre... Pour moi, manger, c'était directement synonyme d'échec parce que j'avais l'impression que je m'empiffrais. Ou en tout cas, dès que je mangeais un peu plus que ce que je m'étais autorisée à manger, pour moi, c'était un échec. J'avais l'impression que j'arrivais pas à me contrôler, j'avais l'impression que je faisais quelque chose de mal, que je faisais quelque chose de mal pour mon corps, alors qu'en fait, non. Tout ce que je faisais de mal, c'était justement toutes ces pensées négatives qui me faisaient culpabiliser, qui me faisaient stresser et qui me pourrissaient de l'intérieur, en fait, tout simplement. Et je vous jure que quand j'ai commencé à simplement me dire, mais c'est OK de manger à n'importe quel moment de la journée quand j'en ai envie... Ça a pris du temps. Je ne vais pas dire que c'est arrivé du jour au lendemain et que je me suis dit ça et puis d'un coup, pouf, mes troubles alimentaires ont disparu. Non. Mais quand je me vois aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression d'avoir réappris à mon corps le fait qu'il n'y a rien de plus normal que de manger. Et du coup, c'est plus un truc auquel je pense constamment. Et le fait que ce soit plus un truc auquel je pense constamment et qui me fait peur, je pense que mon corps, il a juste accepté le fait que, c'est plus que psychologiquement, en fait. C'est vraiment parce que tu affectes ton corps directement. Hein. Il y a tout un tas de choses qui rentrent en jeu. C'est pas juste toi qui décides, c'est tu fais aussi du mal à ton corps, donc ton corps, il te le rend. Il te le rend en ayant des pulsions, tu vois. Moi, les crises de boulimie, par exemple, ou les crises d'hyperphagie, j'avais pas de contrôle dessus. J'avais pas l'impression d'être moi pendant ces crises. J'avais l'impression que c'était juste mon corps, en fait, qui me rendait la... La monnaie de ma pièce, est-ce que c'est ça l'expression ? Je sais plus. Mais c'était un peu comme si je retournais à un truc un peu primatif, tu vois. Et où juste, j'étais affamée, quoi. Enfin, j'avais besoin de nourrir mon corps. J'étais affamée psychologiquement, surtout, en plus de physiquement. Parce que pendant ma guérison, même après avoir repris du poids, j'ai quand même continué à avoir des crises. D'ailleurs, on va en parler après, mais... t'as pas besoin d'avoir un poids particulier pour considérer, pour avoir des troubles alimentaires. T'as pas besoin de te priver constamment pendant une longue durée pour avoir des crises d'hyperphagie ou de boulimie. Ça peut se déclencher parce que tu t'empêches de manger quelque chose ou que tu te frustres psychologiquement, parce que tu peux t'affamer psychologiquement, hein, voilà. Mais du coup, pour revenir sur le fait de quand est-ce que c'est OK de manger, c'est tout le temps OK de manger. Et quand t'auras fait comprendre... à ta tête, à ton esprit, à ton corps, quand il n'y a rien de plus naturel, tu le verras plus comme quelque chose de mal et comme quelque chose d'interdit. Et ça va reprendre sa vraie place, qui devrait juste être une place où c'est quelque chose de naturel. C'est un truc auquel tu ne devrais même pas penser. C'est comme si tu allais aux toilettes, c'est comme si tu te lavais, c'est comme se brosser les dents. Tu manges parce que ton corps en a besoin, parce que tu as envie, et c'est tout. Enfin, moi, le matin, je me réveille, je pense plus à... C'est même pas un truc auquel je réfléchis, en fait. C'est je mange parce que je mange, quoi. Et ça, c'est un truc, quand on souffre de troubles alimentaires, qu'on oublie totalement. Parce que tout devient calculé, parce que tout devient une valeur, tout devient des calories, et ça devient un acte négatif, quoi. Alors que, de base, on vit parce qu'on mange. Voilà. Ok. Corps guéri, mais dans la tête, ça n'évolue pas et je ne sais pas comment faire. On ne peut pas dire qu'un corps est guéri quand on parle de troubles alimentaires. Il n'y a pas de truc de « oui, j'ai pris assez de poids, mon corps est guéri ». Ça, pour moi, c'est une façon très incorrecte de définir si oui ou non tu es guéri. Et il y a beaucoup de, malheureusement, encore aujourd'hui, dans des centres spécialisés de troubles alimentaires et dans des hôpitaux, qui se base sur le poids d'une personne. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé quand, j'étais hospitalisée de jour et que j'allais à l'hôpital toutes les semaines. On me faisait me peser. Et à partir du moment où j'ai atteint le poids, qui selon les médecins était le poids de sécurité, en fait, et le poids que je devais faire, ben, j'ai commencé à être lâchée. J'ai commencé, les médecins ont commencé à dire à mes parents que j'allais mieux, que j'étais sur la bonne voie et qu'il fallait que je continue comme ça et que j'avais plus besoin de venir à l'hôpital aussi régulièrement jusqu'à ne plus venir du tout. Alors que c'est justement le moment qui est le plus dur à vivre pour une personne qui souffre de troubles alimentaires, le moment de la guérison et le moment de la prise de poids tout simplement. Et que c'est tout l'inverse en fait. C'est tout l'inverse. Et c'est tellement, tellement triste d'évaluer la guérison d'une personne sur son poids, parce que ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. Tu peux faire un poids de corps qui est totalement sain, mais toujours souffrir de troubles alimentaires très forts, en fait, intérieurement. Et au contraire, c'est pas du tout une valeur sur laquelle tu devrais te reposer. Parce que tu peux être en pleine forme, vu de l'extérieur. Tu peux peut-être aller chez un docteur, faire des tests, et il va te dire que tu es très très bien, voilà. Alors que intérieurement, tu souffres énormément de ces troubles alimentaires et que les troubles alimentaires, en plus d'affecter ton physique à peut-être un certain moment de ta vie, ce qui vont le plus affecter, c'est ta santé mentale. Donc, il n'y a pas de « mon corps est guéri ». Si tu ne te sens pas guéri à l'intérieur, c'est que tu n'es simplement pas guéri et ça prend énormément, énormément, énormément de temps. Et ça, c'est vraiment un truc sur lequel il ne faut pas se décrédibiliser. Je sais que il y a beaucoup de gens qui se disent « ouais, ben, j'ai pas de trouble alimentaire parce que je vais bien et que physiquement, j'ai pas forcément de problème vu de l'extérieur. J'ai un poids normal pour ma taille et voilà. » Donc, je ne prends pas ça vraiment au sérieux et je me dis que c'est simplement moi qui ai un problème et que j'ai pas de trouble alimentaire. Alors qu'en fait, ils en ont. Et c'est simplement qu'ils se basent sur une donnée qui n'est pas bonne, qui est le poids. Parce que le poids et ton physique, ça n'a absolument rien à voir avec avec la souffrance que tu vis à l'intérieur. Comment éviter les crises de boulimie, hyperphagie pendant la période des fêtes? Alors, je suis pas médecin encore une fois, donc je vais vous donner moi les conseils les choses que j'ai appliquées pendant plusieurs années et j'espère que ça va vous aider. Mais moi, un truc qui m'a vraiment aidée, c'est le moment où je me suis autorisée à manger tout ce que j'avais envie de manger. Et vous allez vous dire, mais ok, David, là, ça m'aide pas en fait. Tu me dis simplement, tu me pousses à avoir une crise. Mais en fait, non. Parce que c'est justement en voulant t'empêcher de manger les choses et en te frustrant que tu vas déclencher la crise. Parce que c'est la frustration qui déclenche ta crise, en fait. C'est la privation et la frustration qui va être la cause du moment où tu vas plus pouvoir tenir. Et tu vas relâcher toute cette frustration en mangeant toutes les choses que tu t'étais interdit de manger. C'est un peu comme quand tu interdis à un enfant de toucher à un truc, tu vois. Tu lui dis surtout ne touche pas à ça, sinon il va t'arriver un truc de mal. Et qu'est-ce qu'il va avoir envie de faire, l'enfant? Il va encore plus avoir envie de toucher à la chose. Et c'est exactement ce qu'on inflige à notre corps, en fait. On lui dit t'as pas le droit, c'est interdit, c'est pas bien, c'est mauvais. Et on va avoir en se disant ça, c'est comme ça aussi qu'on va déclencher la culpabilité, parce que vu qu'on se persuade que c'est mauvais, quand on va le faire, parce qu'on est humain et qu'on a des envies, quoi, ben on va être dans ce truc où j'ai fait un truc de mal. Alors qu'en fait, si déjà de base, tu te dis qu'il n'y a rien de mal, et que tu arrêtes de mettre les aliments dans des catégories et que tu arrêtes de tout diaboliser, ben tu te soulages d'un poids, parce que vu que c'est pas quelque chose qui est mal et que tu t'es dit à toi-même que tu avais le droit et que c'était pas interdit, ben quand tu vas le faire, t'auras pas cette impression d'avoir enfreint une règle. Et du coup, t'auras pas cette culpabilité derrière. En tout cas, moi, aujourd'hui, c'est comme ça que je le vis. Par exemple, ce matin, j'avais envie de chocolat. Ce matin, j'avais pas envie de me prendre un petit-déj classique, en mode un petit-déj que j'aurais pris d'habitude. J'avais envie de manger du chocolat. J'ai mes règles, voilà. J'ai des cravings, j'ai des envies particulières. Donc ce matin, j'ai mangé la moitié d'une tablette de chocolat. Et il y a une période de ma vie où quand j'avais des troubles alimentaires, j'aurais vécu ça comme un échec de ouf et j'aurais culpabilisé jusqu'au soir. Et je me serais enfermée dans cette culpabilité en me disant que je suis incapable de me tenir, que je suis bonne à rien et tous ces mots méchants en fait que je me disais à moi-même. Et aujourd'hui, je n'y pense même pas en fait. Je me dis juste qu'il n'y a rien de plus normal. Je me suis réveillée, j'ai répondu à une envie et c'est derrière moi. il n'y a pas de ce midi, je ne vais pas me priver, je ne vais pas manger moins que ce que j'aurais mangé habituellement parce que ce matin, je me suis enfilé la moitié d'une tablette de chocolat. Vu qu'il n'y avait rien de mal, vu que c'est quelque chose que je m'autorise et que je ne diabolise pas, je n'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose de négatif. Je n'ai pas l'impression d'avoir enfreint une règle parce qu'il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle qui existe. Et c'est ça l'équilibre pour moi. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai réussi à trouver mon réel équilibre et que, en n'ayant pas ce truc de compensation, parce que du coup, vu que je ne vais pas me priver aujourd'hui et que je vais manger exactement comme j'aurais mangé en temps normal et que je vais me priver de rien, je ne vais pas accumuler de frustration. Donc, évidemment que je ne vais pas non plus avoir de moments de privation. Et donc, je n'aurai pas de raison de déclencher une crise. Parce que j'aurais rien qui... Je serais juste apaisée, donc il n'y a pas de... Enfin, en tout cas, pour moi, vu que c'était la frustration qui déclenchait mes crises, encore une fois, on a tous des causes différentes, hein, mais moi, c'était vraiment le fait de me priver et de me frustrer, de me dire que c'était interdit et que c'était mal. C'était ça, les raisons de mes crises. Bah, du coup, j'ai plus ça. J'ai plus ça parce que je m'autorise tout et que je m'autorise aussi à trouver du réconfort dans la nourriture. Ça, c'est pareil. Quand j'étais triste ou quand j'avais mes règles, ou quand je passais par des périodes de stress, par exemple, ben je ne m'autorisais pas à trouver du réconfort dans la nourriture parce que je voyais ça comme quelque chose de mal et d'anormal. Mais ça, on le fait depuis toujours. Hein. Trouver du réconfort dans la nourriture et se récompenser et se faire du bien en mangeant de la nourriture qui nous fait plaisir, c'est pas mal et c'est un truc qui est normal et qu'on fait depuis la nuit des temps. Vraiment. On le faisait au Moyen-Âge. Ok ? Donc... il n'y a rien de mal à ça, et moi aujourd'hui c'est un truc que je m'autorise à faire. Si je suis triste et que j'ai envie de me commander mon dessert préféré, je vais le faire. Si j'ai mes règles et que j'ai envie de m'enfiler ma tablette de chocolat, je vais le faire. Si je suis stressée et que j'ai envie d'un plat particulier le soir pour me réconforter et pour me faire du bien, je vais le faire parce que c'est sain aussi. Et que évidemment il y a des extrêmes, hein, et je ne suis pas en train de dire que de laisser ses... Enfin de... Comment dire, de manger ses émotions, c'est forcément la solution à tout, mais il y a des limites. Je pense que manger pour faire du bien, pour se faire du bien et pour se réconforter, ça ne veut pas forcément dire qu'on mange nos émotions, mais que c'est forcément un synonyme de trouble alimentaire, loin de là. Donc j'espère que j'aurai expliqué ça assez bien et que c'est pas assez trop flou. Mais mon conseil principal pour ne pas avoir de crise de boulimie ou d'hyperphagie pendant les fêtes, c'est justement d'arrêter de tout diaboliser, de s'autoriser les choses, de ne pas compenser en se privant. Ne te prive pas parce que tu vas avoir un repas de Noël le soir ou le lendemain. Ou voilà, ne te dis pas je vais moins manger parce que je sais que je vais manger plus pendant ce repas. Parce que du coup, tu prépares déjà ton corps à avoir une crise parce que déjà tu l'affames. Et en plus, tu commences déjà à appréhender, donc tu vas accumuler du stress. Et encore moins après le repas. Une fois que ce repas est passé, tu reprends ta vie normalement. Et tu manges comme tu aurais mangé normalement, à ta faim. Et il n'y a pas de « je me prive » ou quoi, parce que c'est encore une fois comme ça que tu vas déclencher une crise après. Alors, il y a tellement de questions super intéressantes. Je pense que je vais faire une partie 2 parce qu'il y a vraiment trop de questions importantes et j'ai pas envie de passer à côté. Mais là, j'ai une question, du coup, on va finir avec ça. Comment remballer les remarques physiques, alimentaires de tes proches, de tes amis et des gens qui seront autour de la table? Et ça, c'est un truc dont j'ai parlé vite fait dans le podcast « On ne choisit pas sa famille ». Mais c'est hyper important de... Bon, alors déjà, je comprends que t'es pas forcément envie d'en parler à tous les membres de ta famille. Et c'est même un sujet qui est compliqué à aborder. Moi, je sais que j'ai pas vraiment eu le choix parce que j'étais mineure et que quand j'étais diagnostiquée, mes parents étaient là. Mais c'était très compliqué pour moi d'en parler à la maison avec mes parents parce que ça me mettait mal à l'aise en fait. Ça me mettait mal à l'aise, c'était un truc que je voulais garder pour moi. Mais si tu peux mettre au courant, si tu fais confiance à une personne et que tu sens que c'est une personne à qui tu peux te confier, fais-le parce que ça te libère d'un poids. En tout cas, moi je sais que le fait de me livrer à ma maman sur le sujet, ça m'a vraiment fait du bien. Je me sentais accompagnée, je me sentais comprise et je savais qu'elle savait quoi. Je me sentais moins seule. Mais t'es pas obligée de le dire à tout le monde. Par contre, troubles alimentaires ou non, les remarques sur le physique et les remarques sur l'assiette et les remarques tout ça, c'est pour moi inacceptable. Que ça soit adressé à une personne qui a des troubles alimentaires ou pas, c'est pas des choses qui se font en fait. Et t'as le droit de dire à ton oncle Gilbert, arrête de faire des commentaires sur le physique de tout le monde. Si les femmes autour de cette table ont envie de se resservir 3 fois et de manger plus qu'un homme, elles ont le droit. Il n'y a pas... Enfin, en fait, je ne sais pas à partir de quel moment on s'est dit que c'était OK de faire des réflexions sur la perte de poids de quelqu'un, sur la prise de poids de quelqu'un, sur la façon dont la personne va manger. Je trouve ça hyper malsain. Genre, moi, ça, c'est un truc que je n'accepte plus et que je ne tolère plus, que ce soit des potes, que ce soit... Peu importe, je t'invite à prendre la parole et à prendre la défense de quelqu'un. Si tu vois, par exemple, quelqu'un faire une réflexion à une autre personne de ta famille et que tu l'entends, n'hésite pas à te mettre au milieu et à dire les choses et à rassurer la personne qui vient de recevoir le commentaire et à dire gentiment à la personne qui vient de faire ce commentaire que c'est déplacé de sa part. Et je sais que c'est délicat quand c'est la famille parce que tu veux pas blesser et tu veux pas créer des tensions ou quoi, mais c'est fatigant. C'est fatigant et il n'y a rien de plus normal que d'avoir de mettre des barrières et de savoir ce que tu veux accepter ou non. Et on ne sait jamais ce que traverse une personne. Et donc c'est hyper délicat et c'est hyper déplacé de faire des commentaires à ce sujet. Encore plus quand ça vient d'un ami, quand ça vient d'un proche, exprimez-vous. Exprimez-vous. Aujourd'hui, quand quelqu'un me fait un commentaire, et même quand on me fait un commentaire et qu'on me dit « Oh, ça te va bien, t'as perdu du poids », parce que, voilà, oui, cette année, j'ai eu un changement physique et j'ai perdu un peu de poids sans le vouloir. C'était vraiment pas voulu, c'est juste que j'ai fait moins de sport, c'est juste que j'ai été plus occupée au quotidien. Enfin bref, j'ai perdu du poids naturellement. Et plusieurs fois, ça m'est arrivé de faire face, surtout cet été, à des personnes, des membres de ma famille ou des amis qui me font des compliments du genre « Ah, t'as l'air en forme, t'as perdu du poids, ça te va bien ». Ben moi, ça, c'est pas un truc qui me fait plaisir. C'est pas un commentaire qui me fait plaisir et c'est pas un commentaire que vous devriez faire. Parce que ça sous-entend que prise de perte de poids égale positive, prise de poids égale négatif, et ça veut dire quoi? Donc moi, ce que je réponds dans ces moments-là, c'est ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu me trouvais pas bien avant? Ça veut dire que... Et généralement, la personne en face de toi, elle se sent mal à l'aise. Et elle s'attend pas à ce que tu lui répondes ça. Donc elle te dit... Elle perd ses moyens et elle te dit « Bah non, mais c'est pas ce que j'ai dit. » Et c'est à ce moment-là que tu peux expliquer que c'est gentil de faire des compliments. Et je dis pas qu'il faut arrêter de faire des compliments aux gens, au contraire. Mais si on pouvait éviter d'appuyer ces compliments sur justement le poids, et sur le fait d'avoir pris ou d'avoir perdu du poids... Parce que c'est pas forcément des choses qui sont volontaires. Tu sais pas ce qu'elle traverse la personne. Peut-être qu'elle a vécu là une dépression qui l'a minée pendant des mois et des mois et qu'elle a perdu du poids à cause de ça. Tu vois. Peut-être que... On sait pas. On sait pas ce que vivent les gens. Et du coup, c'est hyper délicat et c'est hyper déplacé de faire des commentaires sur le poids de la personne. Que ce soit en positif ou en négatif. On dit pas à quelqu'un ta meilleure mine parce que t'as perdu du poids ou ta meilleure mine parce que t'as pris du poids ou que non. Tu peux lui dire simplement « Tu rayonnes en ce moment ». Pas la peine d'ajouter quelque chose. Tu peux t'arrêter là. Tu peux simplement dire je te vois, j'ai l'impression que t'es heureuse et t'es très belle. Voilà, c'est gentil, ça reste un compliment. Et par pitié, ne faites plus les trucs de « Ah bah dis donc, on a bien mangé cette année, hein !» Ça, c'est au bûcher. Brûlez-les, ces gens-là. Excusez-moi, je suis méchante, mais ça fait tellement mal. On se rend pas compte, mais ça peut vraiment, vraiment faire mal à une personne. Moi, on m'a déjà fait ces réflexions-là pendant que j'étais dans ma guérison des troubles alimentaires. Et c'est des petits commentaires qui peuvent te renvoyer à la case zéro. Quand quelqu'un te fait remarquer que t'as pris du poids, que ça soit en positif ou en négatif, ça fait mal. Donc voilà, arrêtez tous les commentaires sur la prise ou la perte de poids. Et vous, quand vous les recevez, n'hésitez pas à le dire que ça vous met mal à l'aise. Parce que si tout le monde se tait et qu'on continue à faire comme si c'était normal, il n'y aura pas d'évolution. Et c'est bien c'est important même de le dire. Bon, je pense qu'on a assez parlé pour aujourd'hui. Je vous promets que je vous ferai un deuxième épisode sur ça parce qu'il y a trop de choses à dire. Et peut-être dans les Podmas ou peut-être pas. Sûrement dans les Podmas. Peut-être d'ici une semaine, je referai un épisode sur ça. Mais en tout cas, je vous souhaite de très très bonnes fêtes et plein de courage pour toutes les personnes qui souffrent de troubles alimentaires et qui les traversent en ce moment. Je sais à quel point c'est dur, je sais à quel point c'est long. Je sais à quel point on a l'impression qu'on n'en sortira jamais, mais promis, c'est avec des petits efforts tous les jours comme ça qu'on s'en sort. Et parfois, on a l'impression de rechuter et c'est normal, c'est un peu les montagnes russes, la guérison. Donc ne perdez pas espoir, célébrez toutes les petites victoires les moments où vous avez réussi à profiter, à ne plus penser à tout ça. Et vraiment, enfin, soyez votre propre supporter et restez fier de vous. Les petites rechutes comparées à tous les progrès que vous faites sans même vous en rendre compte, je vous assure que c'est rien du tout. Je me suis même pas rendu compte des progrès de fou que je faisais au fil des années. Et c'est seulement le jour où je me suis sentie bien et où je me suis sentie libérée que je me suis rendu compte que tout ce que j'avais fait, ça avait marché. Et je peux comprendre que pendant la guérison, on a l'impression que ça sert à rien, on a l'impression de pas avancer, alors que réellement, on avance. Je vous laisse sur ces belles paroles et on se revoit demain. Je vous fais des bisous.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.